Ah, puis tout de suite, je la voyais apparaître. La grande plaine, les cactus, les grands massifs rocheux découpés qui ressemblent pratiquement aux rochers percés posés copier-coller en mosaïque dans un grand désert, en se couchant à belle étoile sur les petites couvertes de laine, en ayant peut-être un serpent dans leurs bottes. Et puis je me suis dit, si c'est pas ça le métier de conteur, eh bien pour moi, tout d'un coup, ça devenait clair. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte. Ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Un podcast, un balado. Je suis pas tellement bon à savoir qu'est-ce que c'est supposé être un balado, fait que c'est peut-être une bonne idée d'en faire un, ne serait-ce que pour plus savoir ce que c'est plus tard. Je m'appelle Patrick, je suis conteur d'histoire, j'habite en Gaspésie, c'est moi. Et puis, je me lance dans ce projet-là de vous faire un podcast. En fait, pourquoi je peux avoir envie de faire un podcast? Je sais pas, les hivers sont longs ici, fait que nos projets sont gros. En fait, je suis conteur depuis une douzaine d'années, puis je produis principalement un spectacle l'été à Carleton-sur-Mer qui s'appelle La Petite Grève. Et puis l'été dernier, je m'étais mis à faire des petites capsules vidéo sur ma page Facebook parce que, maudit, il faut mettre du bois dans le poêle, ça arrête l'air. Alors, en entretenant ma page Facebook l'été dernier, je faisais ces petites capsules vidéo où est-ce qu'en une minute, je répondais aux questions qui m'étaient posées ou pas. J'ai été comme surpris de l'engouement de l'affaire. Et les gens me revenaient là-dessus, les gens, des spectateurs m'en reparlaient par après. Ils me revenaient sur le contenu que j'avais présenté puis ils me disaient « Ah, j'ai vu ça de quoi tu parles dans ta soirée ce soir. J'ai vraiment remarqué que tu t'adresses au public de telle manière. » Et puis, j'ai trouvé ça trippant d'avoir cette espèce de discussion-là avec une communauté, avec le public. Alors, l'idée de faire un podcast où je prendrais vraiment le temps de ces interventions-là est venue à ce moment-là. Un podcast, moi, je suis pas très expérimenté dans cette affaire-là. Déjà, là, j'en écoute pas tant que ça. comment je m'y prends pour faire ce podcast-là? Je sais même pas trop à quoi il faut s'attendre. En partant, vous pouvez ne pas avoir d'attente, mais j'ai fait une tentative. Je me suis dit, tiens, on va faire une vingtaine d'épisodes, on va parler de certaines thématiques. Et puis, j'ai fait un premier test et ça marchait pas pantoute. J'étais tout seul devant un micro à essayer de le regarder comme si c'était quelqu'un. Et puis, ça fonctionnait pas. Il se passait dans le micro la même chose qui se passe dans ma tête quand je fais de l'anxiété. C'est-à-dire, ça part dans tous les directions, il n'y a rien qui est soutenu, puis je suis convaincu que c'est mauvais. j'étais un peu dans une espèce de cul-de-sac et il y a une soirée, il y a quelques mois, où est-ce que je parlais de ce problème-là avec une amie, puis elle me dit, elle s'appelle Marianne Boudreau, je peux la nommer. Elle, je peux en nommer les autres, je peux pas les nommer. Marianne, elle me dit, ah ben Pat, si c'est juste ça qu'il te faut, si tu veux, moi, je vais venir t'écouter. Fait que tu n'auras plus l'impression de parler à un micro, mais de parler à quelqu'un, puis entre nous deux, il y aura un micro qui attrapera bien ce qu'il voudra. Et j'ai trouvé que son idée était géniale, et puis tout d'un coup, ça venait débarrer complètement la manière dont les idées s'organisent dans ma tête. Parler à quelqu'un, c'est une des meilleures manières que je connaisse d'organiser mes idées puis de réfléchir. Alors, Marianne est là, en face de moi. Son mandat est assez clair, c'est-à-dire... Son mandat, c'est pas mal de m'offrir son écoute, qui est une chose tellement précieuse. Fait que merci pour ça, Marianne. J'espère que c'est pas trop ingrat de pas y mettre la pression d'avoir à me poser des questions pertinentes ou quoi que ce soit. Elle aurait su le faire, mais je voulais pas qu'elle me pose de questions. Il y a déjà assez de moi qui s'en pose. Dans ce podcast-là, je raconterai pas d'histoire, de conte en tant que tel. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Mais je vais vous raconter plein d'anecdotes du métier, de ce que ça implique d'avoir pratiqué ce métier-là depuis une douzaine d'années. Je considère pas que j'ai une grande expérience là-dedans. Je suis novice ou mi-parcours, peut-être. Ce serait comme d'assumer tout de suite que dans 12 ans, j'ai terminé de compter. Mais peut-être. Mais pourquoi j'ai envie de rentrer dans le détail? Eh bien, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant personnellement. J'ai écouté plein d'autres... je vous ai dit tantôt que j'écoutais pas de podcast, mais je vous mens toujours un peu. Ce sera la prémisse de départ pour tout ce que j'affirmerai. J'ai écouté plein de podcasts, puis je trouve que lorsqu'on fait juste une espèce de survol, lorsqu'on fait une entrevue avec un invité puis qu'on passe une heure avec, je trouve qu'on reste quand même malgré tout dans une espèce de surface. On découvre la couleur particulière de cette personne-là, mais on ne découvre pas ce qu'on a en commun avec elle. On ne découvre pas le day-to-day. Si ça se trouve, si je faisais une entrevue avec, Donald Trump, eh bien, en une heure, ça rejoindrait parce qu'en partant, ça ne rejoint pas grand monde. Mais si on passait 30 heures d'entrevue, eh bien, si ça se trouve, tout d'un coup, on découvrirait lui puis moi qu'on est d'accord sur une chose, c'est que, je sais pas moi, le dessous des pattes d'un chat, ça sent un Doritos. Et puis, on réaliserait qu'on a du commun là-dedans. En surface, on ne se ressemble pas, mais dans le fond, d'un petit détail, si ça se trouve, on a les mêmes rituels quand on se brosse les dents, quand on met nos chaussettes. Ah, toi aussi, tu commences tout le temps par sentir tes chaussettes avant d'y mettre, quoi. Ça ne va pas toujours tourner autour des odeurs. Donc, j'avais envie de plonger à fond dans le truc parce que je me suis dit, je pense qu'en allant beaucoup trop loin, ça va rejoindre beaucoup plus de monde. Ça restera à prouver, en fait. Vous arrêterez d'écouter cette affaire-là quand ça ne vous le dira plus. et puis, je vais vous faire ce tour d'horizon-là, une vingtaine d'épisodes, en vous présentant un peu mon parcours parce que c'était le véhicule le plus logique que je trouvais. Ou du moins le véhicule le plus légitime à partir duquel je pouvais vous parler du compte. Je n'ai pas une grande expertise dans le compte, je n'ai pas étudié là-dedans, je n'ai pas 50 ans de métier, je n'ai pas fait des entrevues avec 600 compteurs-compteuses. Moi, j'ai mon expérience à moi, puis c'est de celle-là que je peux vous parler. Alors, le but, ça ne sera pas de vous parler de Patrick Dubois, ça sera plus de vous parler un peu de ce que ça m'a donné de compter, puis pourquoi je suis rendu là où je compte, puis comment je le fais. Pour faire un balado, on me dit « Pat, ce qu'il te faut vraiment, là, c'est un bon habillage sonore. » Déjà, moi, en général, l'habillage, c'est pas trop mon truc. Mais bon, je me suis mis à la recherche d'habillage sonore. Et puis, je savais pas trop quelle direction. Déjà, je savais pas ce que je voulais faire. Encore moins comment je voulais l'habiller. Et puis, un soir, je me trouve à être du Malbord, du côté nord de la Gaspésie. Je suis dans un bar et puis je croise un de mes amis qui compose de la musique, Guillaume Arsenault. Et puis, j'ai dit, Guillaume, je suis en train de faire un balado, je suis en train de travailler là-dessus, puis il me faudrait une trame sonore. Me donnerais-tu accès à ton matériel? T'sais? Puis il me dit, ouais, pas de trouble, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je sais pas, qu'est-ce que t'as? Il me dit, va sur mon Bandcamp et écoute tout ce que tu veux. Puis à un moment donné, s'il y a de quoi qui t'allume, tu me le diras, tu sais. Et règle générale, j'aime pas trop ce que fait Guillaume, mais... Non, c'est pas vrai. J'aime bien ce qu'il fait. Et puis, à un moment donné, à force d'écouter ses tunes, je suis tombé là-dessus. Je vous le fais écouter. Puis, tu sais, je donnais tout le temps une quinzaine de secondes à chacune de ses tunes. Des coups de gun. Ah! Puis, tout de suite, je la voyais apparaître. La grande plaine, les cactus, les grands massifs rocheux découpés qui ressemblent pratiquement aux rochers percés posés copier-coller en mosaïque dans un grand désert où des hommes, des femmes chevauchent pendant des mille et des mille en se couchant à belle étoile sur les petites couvertes de laine en ayant peut-être un serpent dans leurs bottes demain matin. Et puis je me suis dit, si c'est pas ça le métier de compteur, celui de faire de la route, d'être à moitié nomade, et puis, de temps en temps, s'arrêter dans un village et puis leur offrir notre voyage, leur offrir les aventures qu'on aura rencontrées en cours de route. Eh bien, pour moi, tout d'un coup, ça devenait clair. Cette toune-là allait être l'habillage sonore de mon podcast, de ce podcast-là. Parce que pour moi, c'est ça le métier de compteur. C'est pas trop savoir où on s'en va. C'est une espèce d'errance où on va faire des rencontres humaines, mais aussi des rencontres du matériel, rencontrer des histoires, se rencontrer soi-même dans une espèce de solitude parce qu'on compte pas à 500, on compte souvent tout seul. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire à ce sujet-là, mais en tout cas, j'ai dit tout ça. Alors j'ai dit, ça va être ça, ma toune de podcast. Ah oh, tiens, ça finit au bon moment. Il siffle bien, hein, Guillaume? Incroyable. Alors, ça a été ça, ma toune de podcast. Et il me restait juste à me trouver un titre d'histoire. Et un titre d'histoire, un titre de podcast. Et le titre, Il était une fois dans l'Est. je le dois à un de mes chums qui s'appelle Alex Gauthier, qui a mis le doigt drette dessus. Il était une fois dans l'Est, parce qu'on dit il était une fois dans l'Ouest normalement, mais je me trouve être dans l'Est du Québec, fait que ça fait du sens. Et puis, ça crée une espèce de rapport de distance qui n'est pas faux, parce que veux pas souvent dans l'Est, ici, on a l'impression d'être loin, mais dans le fond, loin de quoi? Donc, j'aimais bien l'image de tout ça, excepté le côté un peu de poursuite coloniale et puis d'écrasement de la culture relié à tout l'univers des cowboys. Mais bon, en dehors de ça, ça me plaisait. Donc, je suis décollé de là. Le conte. Comment je me suis mis à conter? En fait, ça a commencé il y a 12 ans. Je m'intéressais pas particulièrement aux contes. Je vivais à Québec à ce moment-là. Je suis originaire de Québec. J'ai de la famille en Gaspésie, mais je suis originaire de là-bas. Mais à un moment donné, pour vous la faire courte, quoique j'aurais une heure si je veux, je me suis dit que j'avais envie de venir vivre en Gaspésie. Et puis pour vivre en Gaspésie, je le faisais avec l'intention de me mettre à vivre plus doucement, de me mettre à profiter de la nature. Et je me voyais mal faire cette transition-là en m'enfermant dans une espèce de boîte, en allant faire du 8 à 5 à quelque part et puis à regarder le dehors par la fenêtre puis à me dire que mon rêve, je l'aurais ce soir en revenant du travail. J'avais envie qu'à l'inverse, de baigner dans mon rêve et de temps en temps faire des petites concessions pour qu'il soit possible. Mais idéalement, aucune concession. Donc, je me suis mis à me chercher un métier, une job qui me permettrait de faire tout ça. Moi, entre autres, dans la vie, j'aime bien faire de la planche à voile. Alors, je me disais, il faut que de jour, je sois disponible. S'il vente, désolé, je ne suis plus là, je m'en vais sur l'eau, quoi. Donc, il me fallait idéalement un job qui soit de soir et peut-être dans la nature, parce que j'avais envie de baigner dedans, et qui ne me prenne pas trop de temps. Idéalement, un job que je ferais un soir par année. Tain, ce serait, aller chercher un billet de loterie à chaque année puis que ça ait tout le temps gagnant. En fait, ma vraie première idée de job que je pourrais faire, que j'aurais pu faire en Gaspésie, c'était que, quand je venais en vacances dans le coin, moi, une des choses que j'aimais plus faire, je viens dans le coin depuis que je suis tout petit, une des choses que j'adorais faire quand j'étais tout petit, c'était me coller un snorkel, un masque de plongée trop grand d'en face, puis patauger dans l'eau, puis regarder le fond de la mer, mais pendant des heures, me faire brûler par les méduses, mais de temps en temps, voir un crabe, un Bernard l'ermite, et puis je ressortais ça, je me faisais un peu comme tous les enfants, là, tu te fais une espèce de piscine dans le bord de la mer, puis tu ramasses tout ce que tu peux dedans. Fait que je mettais des méduses là-dedans, puis je les faisais cuire tranquillement au soleil en espérant pouvoir les ramener chez moi. Et alors, moi, j'avais envie de partager ça, en fait, en faisant une espèce de kiosque mobile d'information, d'interprétation des milieux marins. C'était ça mon plan A. Tu sais, je me serais promené avec une espèce de barque puis des masques de plongée trop grands, quoi, à prêter aux enfants en me promenant autour du camping à Carleton pour lui dire « Regardez ce qu'il y a en dessous de l'eau. Regardez pas vos tablettes, regardez rien. Le vrai buzz, il est au fond de l'eau ici. On est quand même dans un milieu côtier. Ça ferait aucun sens qu'on n'ait pas la face dedans. » Mais un des enjeux, c'était que j'imaginais qu'il fallait que je contacte la municipalité pour me promener, pour tenir un commerce sur l'espace municipal, sur la plage. Et quelle crédibilité j'avais, moi. J'ai pas de formation en quoi que ce soit, encore moins en biologie marine. Qui c'est ça, le gars qui débarque puis qui dit qu'il veut se partir une business d'interprétation, tu sais? C'était sûr que j'avais pas ce qu'il fallait pour qu'on m'autorise à mener une telle activité. Alors, mon raisonnement a été que fallait que je me fasse d'abord connaître et ensuite mettre ça sur pied. Donc, je m'étais mis à me chercher un plan B pour me faire connaître par la municipalité, pour gagner en crédibilité, quelque chose qui serait dans l'animation. Mais en venant passer des vacances une dernière fois avant de venir m'établir, je l'ai vu. Je me promenais sur la plage et je suis passé à côté du fort à Carleton. Petit coucher de soleil, la mer, les fous de bassin qui allaient plonger au large pour se ramener du maquereau, une couple de touristes, ça pêchait pas encore à la mouche dans ce temps-là, le bord n'était pas à ce point-là arrivé. Et puis, je me suis dit, non, mais c'est ça qu'il faut leur faire découvrir aux touristes, c'est cette version-là de la Gaspésie, le hors-saison, le à-côté, le moment où on se pose puis qu'on prend notre temps, pourquoi pas s'allumer un feu? Pourquoi est-ce que le monde cherche à pelleter des activités à faire au lieu de juste se poser, s'allumer un feu puis chiller pendant une soirée de temps? Je me suis dit, mais c'est ça que je vais le vendre, du feu. De m'installer, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire, et puis tout d'un coup, paf, pourquoi est-ce que je raconterais pas des histoires? Je m'installerais autour d'un feu, comme ça, je donnerais un rendez-vous journalier. J'inviterais le monde à se poser puis à ralentir et je leur raconterais des histoires. Mais pourquoi leur raconter des histoires? Eh bien, j'avais pas particulièrement d'expertise dans patente, moi. Mais ce que je savais, c'est que j'avais fait de l'improvisation depuis une dizaine d'années à l'époque. J'avais joué au Cégep Garneau dans le Samouraï pour les milliers de personnes qui savent, qui connaissent bien l'impro au Québec. Et puis, ben l'impro, c'est une école qui est géniale, à laquelle le Québec doit énormément. Je sais pas, je serais curieux de savoir si c'est pas un genre de 30% de l'industrie culturelle au Québec aujourd'hui qui est issu du monde de l'impro ou que frayer là-dedans. Cette espèce de jeu dans lequel on baigne, à partir de très, très jeune quand même au Québec, ça se peut qu'à partir du secondaire ou même du primaire, t'es un peu touché à ça. Pendant une minute, pendant deux minutes, en deux coups de sifflet, ben, tu vas devenir metteur en scène, script, écrivain, tu vas devenir interprète, éclairagiste, bruiteur, tu vas devenir tout ça, puis trouver ta place là-dedans, puis trouver comment t'arrives à jouer juste toi. Tu vas apprendre aussi... je vous en reparlerai plus tard de l'impro, ça fait assez de choses pour tout de suite. Donc moi, j'avais ce bagage d'impro-là, et je me suis dit, ah tiens, conter des histoires, je pourrais le faire. Pourquoi pas? Donc, à peu près six mois avant de venir m'établir en Gaspésie, j'avais ça en tête. Fallait que je me mette à compter. Compter quoi? Je savais pas trop. Je vivais encore à Québec à ce moment-là. Donc, j'ai fait un premier passage dans une bibliothèque. Fallait que j'aille chercher un peu de documentation pour voir ce que j'allais faire puis comment j'allais le faire. Et puis, je suis tombé sur un livre. Ça a été édité par Planète Rebelle. Ça s'appelle « Le conte, témoin du temps, observateur du présent ». Et malgré son titre, c'était intéressant. Le contenu était... ça m'a frappé. Je découvrais ce que ça pouvait être, le conte. C'était une espèce de livre qui était issu d'une rencontre qui avait été faite avec plein de conteurs-conteuses qui échangeaient sur le milieu. Et il proposait trois principes essentiels pour dire que le conte s'inscrivait dans la tradition orale. Et c'est quoi de la tradition orale? Qu'est-ce qu'un objet issu d'une tradition orale? Bien, il y avait trois paramètres. Le premier paramètre, c'était que cette chose-là, cette matière-là, doit pouvoir s'adapter au milieu où elle se déploie. C'est-à-dire que si je prends un conte qui va parler de bûcheron, mais que je l'amène dans un milieu côtier où est-ce que le bûcheronnage n'est pas quelque chose qui nous rejoint tellement, bien, tout d'un coup, ça se peut qu'avec le temps, cette histoire-là se transforme en une histoire qui parle plutôt de pêcheurs, mais des pêcheurs qui vont rencontrer le même genre d'épreuves que nos bûcherons auraient rencontrées. Alors, cette capacité à être caméléon, c'est le propre de la tradition orale. L'oralité va toujours s'adapter au territoire où elle se déploie pour qu'elle se mette à parler aux gens qui occupent ce territoire-là. Donc ça, moi, ça m'interpellait puis je trouvais ça beau. Un autre paramètre, c'était que le conte ou la matière orale, de tradition orale, devait être anonyme. C'est-à-dire que ça ne devait pas être signé, ça ne doit pas être l'œuvre d'une personne en particulier. Par exemple, dans l'humour, la joke de pète puis répète, on ne sait pas à qui elle est, sinon à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a perdu ses droits d'auteur sur l'affaire à quelque part. Je ne sais pas si c'est une grand-mère qui a inventé cette blague-là ou un humoriste au fond de l'Australie, mais à partir du moment où, par exemple, si c'est un humoriste, à partir du moment où son nom est retiré de l'œuvre, où est-ce qu'on arrête de dire que c'est une blague de un tel, eh bien, elle devient propriété collective et c'est là qu'elle s'inscrit dans la tradition orale. Et ça m'interpellait tellement de me dire « Hey, wow, les histoires que je pourrais raconter pourraient venir de nulle part. » Et je pourrais devenir à ce moment-là simplement le porteur de quelque chose qui est à tous. J'aurais pas l'espèce d'ego qui serait nourri de dire « Ah, ça, c'est ma création, c'est mon génie. » Non, moi, le seul génie que j'aurais eu, ce sera d'être tombé dessus puis de vous la donner à soir. Cette image-là d'être porteur, porteuse de quelque chose me parlait beaucoup. Et mettre l'ego de côté aussi, ça m'inspirait. Et puis finalement, dernier paramètre, c'était que le conte devait ne pas être fixé. Et ça a été pour moi un tremplin, mais de fou, un moteur incroyable. Ne pas être fixé comment? Ben d'aucune manière. Il devait seulement rester dans les mémoires, dans l'oralité, dans le bouche-oreille et puis le jeu du téléphone qui vient avec, le fait que ça va s'adapter, que ça va se transformer, qu'il y aura de l'oubli dans l'affaire. Mais à partir du moment où j'écris une histoire sur papier, ou ben donc j'enregistre ce conte-là sur un disque en vinyle ou en MP3, peu importe, si je fais des hiéroglyphes qui racontent cette histoire-là, eh bien tout d'un coup, l'histoire, elle ne peut plus vivre. elle devient d'une certaine manière immortelle. Et ça, c'est pas être vivant, être immortel, c'est s'exclure de la vie. La tradition orale, on dit que c'est de la matière vivante, et puis pourtant, on passe notre temps à la crucifier en se disant, tiens, en la mettant dans un livre, elle va vivre éternellement, ça va être beau, ça va rejoindre beaucoup plus de monde. Et il y a plein de conteurs-conteuses qui pensent comme ça, et ils ont probablement raison également. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais moi, ça me touchait et ça m'a tellement sculpté dans ma manière de pratiquer mon métier, dans ma démarche artistique, le fait de ne pas fixer mes histoires. Entre autres, ça mettait l'oubli. Ça permettait à l'oubli de devenir un partenaire de création. Quand je dépose mon histoire à la fin du mois d'août et que c'est la dernière fois que je la dis d'ici l'été prochain, eh bien, il y a l'oubli qui se met à la gruger, à faire des trous dedans, à venir emporter des morceaux du bâtiment qui avait été construit là. Et l'été prochain, quand je vais redire cette histoire-là sans l'avoir notée nulle part, eh bien, je vais être pris pour me gratter la tête. Puis, en fait, je vais être pris pour jouer au jeu d'essayer de me rappeler face à vous. Et ça, pour moi, c'est une partie de la réalité du conte. C'est de jouer collectivement à ce jeu-là, d'essayer de se souvenir de nos histoires. J'ai pas envie d'être juste un interprète. J'ai envie d'être quelqu'un qui a une complicité avec un public. J'ai envie d'être quelqu'un qui, au bout d'une demi-heure, fait « Ah, merde, j'ai oublié de vous dire au début de cette histoire-là qu'il y a ce personnage-là qui existe. Fuck, coudonc, j'ai oublié de vous le dire, il était bien important, mais sachez que ben il existait et puis le v'là à soir, 30 minutes plus tard, on va faire avec. Et puis vous rirez de moi et puis je rirai de moi. » Et ça rendra peut-être le conte juste quelque chose de plus accessible qui peut être porté par n'importe qui. En même temps, je pense que tu sais, de fixer nos comptes, ça a même généré des problèmes. Oui, ça leur a permis de traverser le temps sans nous, sans les porteurs, porteuses d'histoire, mais ça a fait en sorte qu'on a arrêté de les mettre à jour à chaque jour. C'est comme si c'était une espèce de programme avec un update, une patch qu'il faut ajouter à chaque fois qu'on l'a dit. Si je te dis cette histoire-là aujourd'hui à toi, ben, je vais la dire d'une certaine manière. Si demain je la dis à un tel, ben, je vais la dire d'une autre manière. Et les porteurs, les porteuses d'histoire changent dans le temps. Si ça se trouve, avec le temps, tu deviens moins raciste que tu l'étais et tu découvres que dans l'histoire, il y avait des petits éléments qui étaient porteurs du racisme et tu n'es plus à l'aise avec ces éléments-là, donc tu le donnes de moins en moins d'importance. Mais c'est des micro-modifications que tu vas faire sans trop t'en apercevoir. Mais je pense que ces micro-modifications-là, on les faisait en tant que communauté. L'image de la femme, il y a 200 ans, était à des kilomètres, je ne veux pas dire à des années-lumière, de ce qu'elle est en ce moment. Il y a encore un travail énorme à faire, mais en fixant un compte et puis en le prenant, là, si je sors un vieux compte traditionnel qui a 200 ans, eh bien, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent plus et en fait, je suis obligé de le reprogrammer en entier. Je suis obligé de reprendre son écriture pour changer complètement ce personnage féminin-là. Parce que ça n'a pas de sens en 2024 qu'on présente un personnage qui est un trophée, qui n'a pas la capacité de poser des actions, qui n'a même pas de parole, qui n'a pas son avis à dire sur quoi que ce soit. Et que si ça se trouve, elle n'a même pas de nom, sinon la fille de... ça n'a pas de sens aujourd'hui qu'on ait ça. Donc, en fixant le compte, je pense qu'on a aussi fixé les valeurs qu'il y avait dans ces vieux comptes-là. Donc, ça en a fait une faiblesse. Moi, de mon côté, j'ai joué le jeu. Je trouvais ça poétique, je trouvais ça beau de respecter ça, de me dire « OK, je ne permets pas à ce qu'on enregistre le compte » et ça me nuit à plein de moments dans des petites entrevues. Veux pas, parce que je produis un spectacle, eh ben, j'ai envie qu'il y ait de la publicité. Puis quand on fait de la publicité, il y a des entrevues télé puis ils disent toujours « ça serait intéressant d'avoir du contenu, ça ferait quelque chose de plus diversifié, comme si dans mon podcast, il y avait des entrevues ou des extraits sonores de d'autres choses, chose qu'il n'y aura pas. Mais je devais toujours essayer de tenir mon bout contre la caméra et puis dire « Non, s'il vous plaît, on peut pas. » Et au début, j'ai pas osé résister à ce point-là. Dès qu'on insistait, je cédais. Et avec le temps, je me rends compte que j'ai pas de regret. Je veux dire, je faisais de mon mieux à ce moment-là. Mais je trouve dommage qu'il y ait des extraits vidéo de comptes que j'ai faits parce que je les porte plus de la même manière, ces comptes-là, parce que je porte plus le compte de la même manière. Je m'adresse plus au public de la même façon. J'ai plus le même débit, j'ai plus la même manière d'être sur scène. Mais si ça se trouve, c'est des histoires que je porte plus pour des raisons importantes. Et puis là, merde, il y a une vidéo de ce compte-là de moi à jamais. Ça, j'ai pas envie de ça. Et il y a, tu sais, j'ai eu des occasions dans des entrevues télé sur chaîne nationale où est-ce qu'ils te disent, hey, t'aimerais-tu prendre 3 minutes pour faire un extrait de compte et ça serait une visibilité incroyable. Et je me disais, merde, c'est vraiment gentil. Merci à la visibilité que vous offrez au compte, mais je vais laisser passer cette opportunité-là parce que pour moi, c'est important. Et j'ai douté longtemps de ça, mais il y a un moment où ça s'est fixé pour moi, le fait de ne pas fixer, où c'est clairement devenu très important. Je crois que c'était en 2013 ou 2014. C'était lors d'une de mes premières tournées de quêteux. Je vous en reparle dans un autre épisode, là, mais en gros, j'allais chez l'habitant, j'échangeais mes histoires contre le gîte et le couvert. Et puis, j'étais chez des inconnus, je me promenais comme ça en autostop. Et je passe par Montjoly et la personne chez qui j'étais supposé aller ce soir-là est Manuel à la dernière minute. Et je me trouve à la rue. Je me trouve à la rue à vraiment devoir faire le quêteux, à vraiment devoir frapper aux portes pour dire « Salut, je m'appelle Patrick, je suis conteur d'histoire et puis je suis un peu mal pris. Voulez-vous, j'insiste un peu, échanger mes histoires contre de l'hébergement? » »« Ah ben, on pourrait t'offrir de l'hébergement. » »« Non, 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 faut vraiment que vous preniez mes histoires parce que c'est ça le jeu, quoi. » Alors, je m'étais promené dans le village et j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelait Marie-Noël. J'imagine qu'elle s'appelle encore Marie-Noël, quoique tout est possible. Elle a dit, bah, pas de trouble, tu peux passer chez nous. Et puis j'ai dit, OK, puis est-ce que tu peux rassembler un peu de monde? Je vous offre une soirée de compte, ça me fait vraiment plaisir. J'ai envie qu'on joue à ce jeu-là d'encore offrir de l'hospitalité en échange d'une histoire. Et elle dit, oui, c'est beau, je vais faire mon bout. Et puis le soir venu, bon, je m'en vais chez elle, je la rencontre, elle, son chum. Et puis elle me dit, ah ben, nos amis n'ont pas pu venir, c'est trop dernière minute, mais on a un ami qui travaille à la télé communautaire, je pense, ou dans le coin de Rivière-du-Loup, sur ta route pour plus tard, et il aimerait faire une entrevue télé. Et pour son entrevue télé, ben, il aimerait avoir un extrait vidéo d'un moment où tu comptes chez des gens. Alors, il nous a demandé si on pouvait te filmer en train de compter. Et là, je me dis, ah non, t'es pas sérieux. Et pourquoi je doute, pourquoi j'ose pas lui dire à ce moment-là que je veux pas qu'on enregistre le compte, eh bien, c'est que ben, je suis dans la posture où ils me dépannent en ce moment, où je les en dois une maudite qui va faire en sorte que j'aurai pas à dormir dans la rue. Fait que je suis un peu prêt à passer par-dessus mes valeurs à ce moment-là. J'ose pas leur parler de mon espèce de débat intérieur. Et tout d'un coup, ça s'éclaire pour moi et je me raconte cette histoire-là en me disant « Ah, je vais raconter une histoire, je vais les laisser l'enregistrer, sauf que cette histoire-là, je la dirai plus jamais. » Cette histoire-là va se sacrifier pour que le compteur puisse continuer de compter. Cette histoire-là va disparaître. Elle sera plus vivante parce qu'on va l'avoir immortalisée. Et ça sera juste beau. Ça sera dommage, mais ça sera beau. Il y aura une espèce de notion de, je sais pas, de sacrifice. Et puis, on a beau vivre dans un État qui est de plus en plus laïque, mais on a quand même une éducation judéo-chrétienne. Puis le sacrifice, ça nous fait lever le poil sur les bras. Et on trouve ça beau. Si on n'a pas souffert, on ne l'a pas mérité. Et puis, je vais sacrifier une histoire. Et ça se met à vibrer en dedans de moi, le petit artiste, le petit poète qui se dit « Waouh, c'est merveilleux, j'ai tellement hâte de raconter ça. » Le chum de la fille, tiens, on va mettre ça sur ce bord-là, le chum de la fille installe son cellulaire sur la petite table du salon pour le spectacle d'une heure que je vais faire dans le salon. Il ramasse une petite application pour que le téléphone ne ferme pas à tous les 15 minutes parce que ça enregistrait maximum 15 minutes. Il se pogne une appli, il installe ça, il pèse sur le petit bouton rouge et ça part. Et je me mets à leur raconter une histoire à eux deux. Je suis à peu près à 6 pieds de distance, je suis sur un petit divan, j'ai mon fanal à l'huile, j'ai mon costume de conteur. Dans cette espèce de projet fou que j'avais eu d'aller compter chez le monde. Et on décolle, on est dans la petite obscurité, il y a cette espèce de bulle-là qui nous permet de voyager, la maison disparaît et on se ramasse dans les années 1800 à suivre deux, trois personnages sur le bord de la mer en Gaspésie. Et le récit se passe comme à l'habitude, à l'exception près que dans chacune des scènes que j'évoque, je fais intérieurement un peu mes adieux à chaque scène. Et j'aborde une scène en me disant « Ah oui, c'est vrai, à ce moment-là, il va se passer telle chose et c'est la dernière fois qu'il va se passer cette chose-là, ou du moins par moi. La dernière fois que moi, je vais porter ce récit-là. » Je disais adieu à chaque personnage que je rencontrais dans l'histoire sans le dire à eux en face de moi que c'est ça qui se produisait. Et je finis mon histoire et je vois le chum de la fille qui se met à pitonner sur son cellulaire, qui fronce les sourcils. Et moi qui étais un peu triste de me dire que cette histoire-là, ben merde, c'est vrai qu'elle est bonne et c'est dommage que je la raconterai plus. Et tout d'un coup, il dit « Ah ben tabarnak! » « Quoi tabarnak? » Il dit « Ça n'a pas enregistré. » Eh bien, pas que ça n'a pas enregistré, sauf que l'application qu'il avait utilisée pour enregistrer lui demande maintenant de payer un membership s'il veut avoir accès aux données qui ont été enregistrées. Et t'es là, la passe, l'appli est gratuite, mais votre contenu, non. On vous revend votre contenu si ça vous tente. Et je réalise que l'histoire, eh bien, elle ne s'était pas laissée prendre. Et c'était faussement offerte en appât et elle avait dit « Fais-moi confiance, je te prends sous mon aile. Le compteur pourra encore se promener, on pourra encore dire que cette histoire-là est en vie. » Une histoire en 2013 avait déjoué la technologie, avait échappé au grand monstre des MP3. Et grâce à l'habilité de cette histoire-là, eh ben, aujourd'hui, je peux encore raconter l'histoire de Jean Attibert qui va chercher son saumon au Nouveau-Brunswick. Elle avait échappé à la mort. Si c'est pas ça, vive! Je vois pas ce que c'est. Alors vous comprendrez que, eh ben, j'avais eu mon avertissement. À partir de maintenant, tu laisses vraiment plus d'histoire se faire enregistrer parce que c'est de l'ordre du sacré. Et donc, il y a nécessairement, eh bien, ça sculpte ta manière de raconter des histoires et d'inviter les gens à les écouter aussi, de pas fixer les comptes. Et c'est d'autant plus pertinent, je pense, en 2024, d'inviter les gens à pas filmer quelque chose, à pas enregistrer, parce que je pense qu'on est un peu, on est sculpté par ça maintenant, cette espèce d'urgence d'archiver. Sinon quoi? Sinon, on n'a pas vécu la chose si on ne l'a pas enregistré. Mais c'est pas ça, vivre. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'on aimerait tous s'affranchir de notre besoin d'enregistrer, mais ça reste plus fort que nous. Et au début de mes spectacles, maintenant, que je présente sur la plage, je dis, j'emprunte tout le temps cette espèce de formulation-là où je dis aux gens, bon, si vous voulez prendre des photos, il n'y a pas de trouble. Mais ceux qui aimeraient prendre des vidéos, je vais vous demander de ne pas le faire parce que j'ai envie que le compte soit un moment et non pas un objet. Et puis, je les vois hocher de la tête et je les vois quasiment être soulagés de ce geste-là. Mais ces choses-là, moi, ça me donne envie de raconter des histoires en respectant les espèces de trois principes qui font que ce sera de la tradition orale. C'est une des choses qui fait que ça chaîne pour moi. C'est un objet que j'ai l'impression qui est précieux. J'ai l'impression de porter un geste qui est important quand je raconte des histoires, d'être dans l'immatériel et puis de le garder immatériel. Et si je me mettais à vendre un DVD de mes histoires qui ne sont pas à moi, en fait, je sais pas quelle relation j'aurais avec ça. Je sais pas quel malaise j'aurais à me dire « Hey, je suis en train de commercialiser quelque chose qui n'est pas à moi. » Chose que, de toute manière, je suis effectivement aussi en train de faire quand je dis à la fin de la soirée que ça sera 5$ pour le temps que je viens de vous raconter cette histoire-là. Mais c'est le genre de doute avec lequel je me promène. Je vous dirais que ça ferait à peu près le tour d'un... Ça finirait un peu abrupt, mais je pense que ce serait une manière de finir ce premier épisode-là. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boréalex.